Bienvenue dans ce 17e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité. C'est notre premier épisode post-confinement. Ça va être un épisode un peu spécial, on est en effectif réduit, mais ça va être bien quand même. Du coup, aujourd'hui je suis avec Marion.
Bonsoir.
Je suis avec Antoine.
Bonsoir.
Et il nous manque Benjamin.
Bonsoir Ben.
Qui a été éliminé.
Il y a eu rajouté au montage un bonsoir de Ben.
Il y a eu un vote et on a décidé de l'éliminer puisqu'il ne peut... je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il y a eu une grosse engueulade entre Ben et Antoine.
Oui.
Pour la place de mal alpha du,
ah oui.
du podcast.
C'était surtout un choix stratégique puisque c'était le plus fort d'entre nous.
Oui. Voilà. On a réussi à les relier pour un podcast, un unique podcast. C'est très dur à dire, un unique podcast. Et après une seconde vague, Antoine a gagné. C'est pas vrai du tout. Il va très bien. Je vous rassure, ça n'a rien à voir avec le Covid. Il est juste absolument pas disponible. Voilà. Du coup, comme aussi c'est un peu, en ce moment c'est un peu compliqué, on ne va vous présenter que trois sujets que je vais vous demander de résumer en deux mots. Marion.
Pollen et morsure.
Antoine.
Laser et Maya.
Ok. Et moi, ce sera baleine et transmission.
Sachez que j'ai très envie de faire une blague genre Maya laser.
Ah ouais.
Ouais, voilà, j'ai dans la tête depuis tout à l'heure. J'espère que c'est partagé.
Surtout que toi, tu fais donc pollen et morsure.
Tout à fait.
Que tu vas nous présenter maintenant.
Exactement. Effectivement, mon sujet, c'est pollen et morsure. Et comme vous le savez, probablement, les pollinisateurs, comme les abeilles, les bourdons, tout ça, sont en danger, notamment à cause des pesticides et de certaines pratiques d'agriculture, qui est par exemple de retirer les fleurs des champs autour des champs, ce genre de choses.
Genre les coquelicots. Moi, je trouve ça super beau, les coquelicots, il y en a partout.
Et voilà.
Je ne veux pas qu'on les retire.
Voilà, voilà. Et donc pour les bourdons, il y a un autre problème qui est la désynchronisation de la floraison qui, à cause du réchauffement climatique, est plus tardive.
Tu vas galérer un petit peu sur ce climatique.
Je pensais que ça passerait, mais non.
Mais attends, qu'est-ce que tu entends par désynchronisation de la floraison ?
Eh bien, je vais le dire immédiatement. En fait, il se trouve que tous les printemps, au début de chaque printemps, les bourdons font de nouvelles colonies.
Ok.
Et donc une étude a montré que la disponibilité des fleurs dans un rayon de 1 km autour de la nouvelle colonie, ça influence fortement la capacité de survie de cette colonie. Parce que le pollen, ça permet de nourrir les larves, et c'est la source principale de protéines des toubrières.
D'accord.
Et le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, les fleurs sortent plus tard. Enfin, la floraison se fait plus tard chez la plupart des plantes. Et du coup, lorsque les bourdons veulent faire leur colonie, il n'y a pas de fleurs, et donc pas de pollen.
Ils peuvent pas retarder leur colonisation.
Et voilà, ils peuvent pas retarder leur colonisation. Qui est problématique. Mais ces bourdons, ils ont trouvé une solution. Donc, qui est la suivante. Donc, le 22 mai 2020, dans Science...
Excuse-moi, mais je suis juste en train d'imaginer la réunion des bourdons avec un petit bourdon qui a...
une baguette oui. Avec un PowerPoint.
Alors, étant donné le problème que nous avons
étant
depuis
la conjoncture actuelle...
je propose... Pardon, vas-y.
Voilà. Donc, dans le 22 mai dernier, dans Science, il y a un article qui est paru. Donc...
Juste pour info, le 22 mai, c'était l'anniversaire de mon père.
D'accord. Bah écoute, bon anniversaire en retard à ton papa. Voilà. Et il a eu pour son anniversaire un Science, qui n'est pas de lui.
Ce qui est pas mal, quand même.
C'est ça.
J'aimerais bien en avoir un.
Donc, c'est l'équipe de Consuelo de Moraes, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et qui s'intitule « Les bourdons endommagent les feuilles des plantes et accélèrent la production de fleurs en cas de pénurie de pollen ».
Ça a l'air pas mal.
Ça a l'air pas mal, hein. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc eux, ils s'intéressaient à l'espèce Bombus terrestris, donc qui est l'espèce commune de bourdons. Et ils se sont aperçus que les bourdons, ils utilisaient leurs mandibules pour mordre les feuilles et faire des petits trous en forme de lune dans les feuilles.
Mandibules ?
C'est les crochets des insectes, une espèce de dents. Donc voilà, ils font des petits trous en forme de lune dans les feuilles. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait avec ces petits trous. Est-ce qu'ils mangeaient la feuille ? Est-ce qu'ils la ramenaient à la ruche ? Enfin, c'est pas vraiment la ruche, à la colonie, pour faire office de pollen. Ils ne savaient pas trop. Donc ils s'y sont intéressés. Surtout qu'ils savaient qu'il y a certains stimulus, comme le stress, qui pouvaient accélérer la production de fleurs chez les plantes.
Je trouve que tu as très bien géré ce certain stimulus comme le stress.
Je suis beaucoup entraînée.
Un chasseur, ça sent chasser.
Voilà. Et du coup, ils se disent, si ça se trouve, ça sert à stimuler la floraison des plantes, on sait pas trop. Et comme ce qu'on sait, c'est essentiellement des stimulus qui sont pas dus aux animaux, ça va être le stress, des coupures, des trucs comme ça, des sols qui sont pas assez riches.
Ouais, ou qui se retrouvent à être acidifiés.
Voilà, c'est ça. Donc ils se sont intéressés à ça. Et donc, ils ont utilisé deux types de plantes et ils ont observé donc, le temps de floraison que les plantes vont mettre en fonction de s'ils les mettent avec des bourdons qui ont été privés de pollen, si ils coupent eux-mêmes les feuilles en essayant de reproduire au maximum les motifs des bourdons, ou s'ils laissent les plantes toutes seules, sans rien faire dessus.
Je trouve qu'on est quand même une espèce assez folle, dans le sens où on a des humains qui se disent « je vais aller couper les plantes comme des bourdons ». Voilà.
Voilà. Ils disent d'ailleurs qu'ils utilisent des petites pinces et des petits clames de rasoir.
En forme de mandibule.
Je ne sais pas si c'est en forme de mandibule, j'avoue que je n'ai pas regardé précisément. Et donc ce qu'ils observent, c'est que pour leur premier type de plante, qui est une variété de tomates, la floraison est accélérée de 30 jours avec les bourdons, oui, et de 25 jours avec les
fausses mandibules.
Les fausses mandibules.
Et il n'y a que des bourdons qui sont privés de pollen. Oui, parce que si tu les prives pas de pollen, en fait, ils vont pas.
Bah c'est ils s'y intéressent après, justement. Je vais en parler après. Et pour le deuxième type de plante, qui est une fleur des champs, donc la floraison elle est cette fois-ci accélérée de 16 jours pour les bourdons et de 8 jours avec les modifications à la main.
Comme quoi, les humains moins doués que voilà, les bourdons pour certains trucs.
Et du coup, ils ont fait quelques tests statistiques et les bourdons donc, sont significativement plus efficaces en termes de déclenchement de la floraison que les humains.
En même temps, c'est vrai qu'on n'a pas fait faire ça par des humains qui étaient en train de crever de faim.
Voilà.
Disons-le.
C'est ça. Mais en gros, si on coupe les feuilles manuellement, et bah, ça marche, ça accélère la floraison, mais pas autant que si c'est les bourdons qu'il faut.
Ok, voilà. Cool.
Donc effectivement, ils sont intéressés à est-ce que c'est quelque chose qui est naturel chez les bourdons ou est-ce que ça se fait que lorsqu'ils sont en pénurie de pollen. Et donc pour ça, ils ont utilisé deux types de colonies. Ils en ont fait une qui commence à avoir du pollen en quantité pendant une semaine et qu'après, ils privent de pollen. Et les autres, ils commencent une semaine privée de pollen et après, ils leur donnent du pollen. Donc c'est sur des cycles de 7 jours. Donc le premier jour, ils changent l'alimentation. Du coup, soit ils rajoutent du pollen, soit ils l'enlèvent. Ils leur laissent 3 jours pour s'adapter, et ensuite, les 3 derniers jours, ils regardent les feuilles des plantes pour compter le nombre de marques de morsure, entre guillemets, qu'il y a. Et ce qu'ils voient, c'est que dans les deux cas, que ce soit des bourdons qui commencent avec du pollen ou des bourdons qui commencent sans pollen, il y a toujours beaucoup plus de trous dans les feuilles lorsqu'ils n'ont pas de pollen.
D'accord.
Donc c'est bien un mécanisme qui est déclenché lorsque par la pénurie de pollen. Ensuite, ils se sont demandé si c'était dû aux conditions expérimentales, parce que ce qu'ils ont fait là, c'était avec des plantes et des bourdons qui étaient en cage, entre guillemets, donc en laboratoire. Et du coup, ils ont utilisé le toit de leur institut pour élever des bourdons dehors.
C'est une étude qui vient de quel pays ?
Suisse.
Suisse,
d'accord. Suisse. Donc, ils ont remarqué que c'est une étude qui a été faite donc dehors pendant le printemps 2018 et le printemps 2019, et ils ont remarqué que il y avait beaucoup plus de plantes abîmées, donc avec des petits trous, au début du printemps que fin avril, quand le printemps était plus avancé et que toutes les fleurs avaient fini par sortir.
Donc c'est du coup que le pollen coulait à flot.
Voilà, que le pollen coulait à flot.
C'était open pollen.
Open pollen bar. Donc c'est bien un mécanisme qui est aussi naturel. Et voilà, ce qu'ils ont trouvé aussi, c'est que c'était quelque chose qui était fait par les bourdons, donc par cette espèce de bourdon et 3 autres espèces de bourdons sauvages, mais pas du tout par les abeilles. C'est un mécanisme qui a l'air assez spécifique des bourdons. Ce qui est un peu frustrant pour l'instant, c'est qu'ils savent pas du tout comment ça se passe, en termes de plantes, de mécanismes dans la plante.
Quoi, ça, oui.
Qu'est-ce qui fait que ça favorise la floraison? Mais on peut supposer qu'il y a peut-être un facteur chez les bourdons, une substance peut-être qu'ils injectent, qui fait que ça accélère plus la floraison que simplement la petite coupure.
Bah déjà, il y a la coupure, parce que sinon, le fait de couper à la main, ça aurait pas... Mais effectivement, peut-être que, vu la différence qu'il y avait, peut-être que c'est aussi dû à un truc qu'il y a dans la
peut-être quelque chose encore plus qui permet d'accélérer la floraison. Voilà.
Donc, c'est stylé de voir qu'un insecte, c'est un insecte, non,
oui.
A réussi à trouver une manière de dire, bon bah écoutez, vous nous saoulez avec votre réchauffement climatique, nous on trouve des solutions, et on va mordre les fleurs.
Voilà. Mais et maintenant vous poussez.
Les bourdons, ils ont pas de ruche alors enfin, c'est
bah, ils parlent pas de... Non, effectivement, c'est ils parlent ça. Pas de ruche, ils parlent de colonie.
C'est vrai qu'on a jamais vu de ruche, de bourdon.
Ouais, c'est ça.
De burge, de...
C'est colonie. D'ailleurs, j'ai appris que, donc, une colonie sans reine, ça s'appelle, en anglais ça se dit queenless. Assez logique. Et en revanche, une colonie avec une reine, ça se dit queen right. Voilà.
Ce qui est... Oui, ça n'a pas trop de...
Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà.
Ok. On est d'accord que le bourdon, ça pipe pas ?
Non. C'est très pipe.
Donc, c'est vrai que c'est très fluffy.
Oui.
C'est très poilu, ça ne pique pas, c'est pollinisateur, on évite,
on aime bien.
Taper dessus.
C'est ça.
Ça mord quand même, je crois.
Ça mord les feuilles.
Oui.
En forme de lune.
Peut-être que si ça mord l'humain, tu vas plus grandir.
Oui.
Ça va faire des fleurs.
Tu vas donner plus de pollen.
Peut-être. Mais du coup, il faut quand même essayer de ne pas trop endommager cette espèce. C'est ça.
Et vous pouvez aller voir dans l'article, il y a des photos de bourdons et des petites marques en forme de lune qui font dans les feuilles. Ça, c'est très bien. Avec notamment une vidéo où tu les vois mordre dedans.
Oh, c'est trop stylé. Ok, et ben merci beaucoup.
De rien, beaucoup.
Antoine.
C'est à moi.
Tu vas nous parler de laser et de Maya.
C'est exact.
De Maya. Maya et laser.
De Maya laser. Voilà.
Merci.
Pour faire la petite transition. Et donc, je vais vous parler d'un article du Monde qui décrit une découverte scientifique récente, qui date d'hier, en fait, parce que l'article date d'hier.
D'ailleurs, je précise que c'est un peu un sujet qu'on nous a proposé, et c'est cool.
Oui, parce que, justement, je l'ai noté sur mon petit papier, que, en fait, ce sujet, il aurait pu me laisser assez indifférent, parce qu'en fait, on a tous des sujets préférés quand on prépare nos sujets, nos podcasts. Et moi, j'y connais pas grand-chose en Maya, et a priori, ça me laisse un peu indifférent, en fait, ces sujets-là. Et heureusement, mon ami Guillaume m'a envoyé cet article et ça m'a rendu un peu plus curieux et je suis allé le voir. Et en fait, le titre, c'est « Le plus ancien site Maya découvert au Mexique grâce à des impulsions laser ». Donc là, boum, mot-clé, laser, ça me fait, ouais. Ça me fait tilter. Et,
Puisque tu fais ta thèse sur les lasers.
Et c'est exact. Et puis je me suis demandé comment des impulsions laser ont-elles permis de découvrir un site Maya. Il y a plusieurs technologies qui utilisent ces impulsions.
Peut-être que c'est grâce aux aliens. Je sais pas.
C'est sûrement grâce aux aliens, mais en tout cas, l'équipe scientifique du professeur Takeshi Inomata de l'Université de l'Arizona a utilisé un appareil qui s'appelle le LIDAR. C'est une des applications du laser qui est assez importante. Et ça lui a permis de faire une carte très précise d'altimétrie du sol dans la zone de Tabasco au Mexique. Altimétrie, c'est une carte d'altitude en fait.
Ça donne le relief quoi.
Ça donne le relief. Et donc ça leur a permis...
J'utilise un petit peu des mots compliqués pour dire...
Oui, c'est ça. Ça leur a permis de découvrir ce site Maya qui est très vieux et qui est envahi par une végétation très dense. Donc c'est une zone quand même assez... je ne sais pas si c'est tropical, mais en tout cas, il y a beaucoup de...
Plantes.
De plantes, voilà. Et donc, comment fonctionne le LIDAR? Comment ça les a aidés? En gros, c'est un peu comme le radar et le sonar. Vous remarquerez que ça se finit pareil. Ça fonctionne par écholocalisation. Donc en gros, avec ces trois appareils, vous envoyez une onde dans l'inconnu, en face de vous, et vous écoutez les échos qui reviennent dans votre direction quand ils ont rencontré un obstacle. Donc c'est juste que l'onde rebondit contre un obstacle et revient vers vous. Et en fonction du retard de cet écho, sachant que vous connaissez la vitesse de l'onde que vous avez envoyée, vous déterminez la distance de l'obstacle. Par exemple, le sonar, ça fonctionne avec des ondes acoustiques, donc des sons, et c'est particulièrement adapté pour mesurer des profondeurs sous les océans ou repérer des poissons pendant une partie de pêche.
Du coup, radar... Est-ce que c'est des rats qu'on...
Non, ça c'est plutôt des ondes électromagnétiques, dans le domaine des micro-ondes, donc c'est plutôt des fréquences de gigahertz, c'est effectivement les ondes qu'il y a dans vos micro-ondes ou alors le Wi-Fi par exemple. Et ça utilise donc ces ondes électromagnétiques qui rebondissent contre des obstacles qui sont plus lointains.
Moi j'ai une question qui est peut-être un peu bête, mais le son, enfin on a l'image du son ou du wifi comme tu dis, avec des ondes circulaires, alors qu'un laser on a plus un truc.
Ouais, je vais y venir. Donc en fait, le radar par exemple, tu vois les antennes qui tournent sur les toits des bateaux. Elles font ça parce que c'est des antennes directrices qui pointent vers une direction et qui se disent « Ok, donc dans cette direction-là, ça a mis tant de temps à revenir, donc voilà, dans cette direction-là, il y a un obstacle à tant de kilomètres. » Le LIDAR, c'est pareil. En fait, tu fais tourner très rapidement un laser qui envoie des flashs, et donc les flashs se retrouvent un peu partout et te donnent la position de l'obstacle à différents endroits qui sont en face ou en dessous de toi.
Donc tu fais tourner et ton laser et ton récepteur.
Non, parce que le récepteur est en général à côté de la source. Alors, où j'en étais, moi? Et donc, le LIDAR, voilà, ça fonctionne aussi grâce à des ondes électromagnétiques, mais donc cette fois-ci, c'est pas des ondes millimétriques comme dans les
micro-ondes.
Micro-ondes. Voilà, mais
du coup,
c'est
pas
ondes...
millimétrique, c'est micrométrique.
Micrométrique, ouais. Mais c'est des ondes lumineuses dans le domaine des infrarouges. Et ça, c'est important. Je vais vous le dire ensuite. Parce qu'en gros, le lidar à utiliser pour cette découverte s'occupe d'envoyer donc ces flashs de lumière vers le sol. Vu que nous sommes en 2020, les scientifiques ont monté ça sur un superbe drone qui permet d'analyser une énorme zone de forêt vierge. Quoi.
Il avait tout pour te plaire, cet article.
Ouais. Plus je l'ai lu, plus j'étais conquis. Et donc, le résultat principal de cette étude, c'est une carte d'altitude qui révèle plein de formes du terrain. Donc, je l'ai sous les yeux là, mais forcément, les gens qui nous écoutent ne peuvent pas la voir. Mais en gros, avec cette carte, on distingue très très nettement les ruines d'un gigantesque site maya qu'ils ont baptisé Aguada Phoenix. Et en fait, cette méthode est beaucoup plus précise que de juste arpenter la forêt avec une machette. Parce que, au passage, la zone qui a été scannée mesure 745 km². Leur approche, c'était on scanne une énorme zone dans le Mexique, on va repérer les structures un petit peu bizarres, et après on va scanner plus précisément ces zones-là. Et donc ils ont découvert plein de sites mayas en fait.
Mais est-ce que du coup tes lasers, enfin ton lidar, il outrepasse la végétation, ou est-ce que la végétation suit, étant donné que la végétation suit la forme du truc,
c'est
et ben,
une très bonne question,
c'était
Juliette.
C'était ma prochaine question.
En fait, je vous ai dit que c'était que la longueur d'onde du laser était très bien choisie. En fait, c'est parce que elle traverse les végétaux. Et
tous les végétaux, genre l'écorce d'un arbre, elle le traverse.
Non, en fait, bon, y a toujours des petits artefacts, des petites choses que une partie des flashs que tu envoies de laser qui sont reflétés par des arbres, etc. Mais la majorité d'entre eux arrivent jusqu'au sol. Et donc, en fait, ce que tu obtiens, c'est vraiment une carte de l'altitude du sol sans compter la végétation. Et c'est un peu comme si tu défrichais virtuellement une zone énorme. Quoi. Et qu'ensuite, tu prenais une photo. Donc, c'est hyper, hyper précis. Ça a permis de faire cette découverte. Donc en gros, ce qui est intéressant apparemment, bon, je ne m'y connais pas du tout, mais c'est que cette structure est assez, assez grande parce qu'en fait, y a plein de sortes de ruines de bâtiments, mais il y a notamment une grande surface, une sorte de plateforme surélevée de 10 à 15 mètres par rapport au relief naturel, qui est plate et qui est rectangulaire et qui est longue de 1400 mètres et large de 400 mètres. Donc c'est un grand rectangle en gros qui aurait jamais été pu être découvert sinon, parce qu'en fait si tu marches dans la forêt tu passes dessus, peut-être t'as l'impression de monter, mais en fait donc ça permet vraiment de voir l'ensemble et sur la photo on le voit très bien, on voit vraiment comme une ville un peu ensevelie sous les arbres et donc ensuite une fois qu'ils ont fait ça, ils ont pu faire des fouilles, repérer des petites
est-ce qu'ils ont
une petite sculpture
débroussaillé.
Non, je pense pas qu'ils aient des brousses. Bon, ils l'ont fait peut-être à certains moments. Une autre nouvelle intéressante, c'est que après ils ont, tout en sachant où ils étaient dans le bâtiment, ils ont daté plusieurs matériaux à ces endroits-là, et cette équipe a découvert que ce bâtiment avait été construit à peu près autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment, ça repousse encore plus le début de ce qu'ils appellent l'ère maya, enfin l'ère des mayas, surtout enfin des mayas qui construisaient des architectures de ce type-là. Quoi.
Ah ouais, c'est fou.
Apparemment, c'est assez intéressant dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est pour ça que l'article a été publié dans Nature.
Ouais, dans le monde.
Ouais, et que derrière, ça a été repris par les médias grand public.
Eh bien, c'était assez ouf.
C'était cool.
Est-ce qu'on sait s'il y avait des prêtres qui faisaient des sacrifices,
non.
Des sacrifices
alors,
de CO2 ?
Ce qu'ils disent quand même dans l'article, c'est qu'apparemment, chez les Mayas, plus les structures étaient verticales, plus ça symbolisait une société hiérarchique, et où en gros, j'ai pas trop compris tous les détails, etc. Mais là le fait que ça soit vraiment une structure vraiment très horizontale et tout, ils pensent plutôt que c'était un lieu de rassemblement.
C'était un lieu de gauche. C'était non. Des Mayas de gauche.
Je sais pas. Je pense qu'ils n'ont pas pu déterminer ça. Mais en revanche, ils savaient que c'était une sorte de peut-être de marché ou de
d'accord.
De zone comme ça, un peu de rassemblement. Voilà.
Ok.
De ce que je vois là, on dirait surtout une piste d'atterrissage, mais je pense pas que ce soit.
Ouais, alors si tu regardes bien, il y a une piste d'atterrissage ici, moderne.
Ah oui.
Non, mais
qui date de l'ère Maya.
Ouais, c'est vrai que là aussi, on dirait.
C'est pour les avions Maya.
Non, mais c'est marrant parce que du coup, sur leur carte, on voit aussi des infrastructures modernes. On voit une ligne de train, etc. C'est assez marrant.
Ok, c'était bien ouf. Donc probablement un marché, zone où tu ne respectes pas trop les distanciations sociales généralement.
C'est ça.
Donc ça ne va pas tout de suite le remettre. Le
ils
remettre
pas nos problèmes.
Eh bien, je vais enchaîner avec le dernier sujet, qui va porter sur baleines et transmission. Et je vais faire un peu d'histoire de nous. Et je vais commencer par le 13 mars 2015. 13 mars 2015, le Pâle Macho, donc constitué de David Marsay et Grégory... Et zut, je l'ai oublié en le disant. J'ai oublié le nom en le disant. Publie sur YouTube un épisode qui s'appelle « Quand on est président de la République ». Et à 1 minute 50, un président de la République qui est passablement ivre arrive et dit « Et je passe l'autorisation du taux de l'alcoolémie dans le sang de 0,5 à 1000 !» Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette expression de « à 1000 », c'est quelque chose que moi j'ai très vite adopté comme étant une expression pour désigner quelque chose qui était en grande quantité. Et que Antoine a aussi très vite adopté, on l'a tous les deux très vite adopté pour désigner voilà, quelque chose de « t'as faim ? Ouais, j'ai faim à 1000 ». Donc voilà. Et puis un peu plus tard, en octobre 2016, j'arrive en thèse et je rencontre ma co-directrice de thèse, Jessie. Et au début, devant ma co-directrice de thèse, je fais un peu gaffe et j'essaye de pas trop utiliser des expressions du genre « alors ça a bien marché ? Ouais, ça a marché à 1000 ». Et de faire semblant d'avoir un langage un petit peu scientifique. Après, j'ai très vite compris que devant Jessie, de toute façon, tout ce que je pourrais dire, ça aura la valeur d'un enfant de 5 ans. Donc bon, j'ai moins fait attention. Et puis en octobre 2016, alors que Benjamin, lui, devait être dans sa deuxième ou troisième année de thèse, arrive au laboratoire Marion.
Alors, parle octobre 2016, en revanche, ça c'est toi.
Ah oui, j'ai lu deux fois toute la même phrase. En été 2017, pardon. Tout à fait. Arrive au laboratoire Marion, qui vient s'installer en face, enfin à côté de, dans le bureau, quoi. Et avec Marion, clairement, je fais pas preuve de la même retenue que j'avais essayé de faire preuve avec Jessie. Et très vite, Marion adopte l'expression de « à 1000 »
Tout à fait.
Dans son langage. Ce qui fait que finalement, à partir de 2018, Jessie encadre deux étudiantes qui utilisent régulièrement cette expression. Et on finit par entendre Jessie au bout du couloir qui disent « bon allez, on va déjeuner, j'ai faim à 1000 ».
Ce qui était une grande victoire, un petit peu.
Ce qui était un truc qui nous a bien marqué. Tout ça pour dire que les humains se transmettent des expressions. Et c'est des idiomes, je crois qu'on appelle ça. Des formes de langage. Mmh. On l'a vu aussi, ça m'avait pas mal choqué il y a quelques années, quand le mot « bail » est arrivé. Où au début, à la fin, on savait pas ce que ça voulait dire. Mmh. Et en même temps, on le disait parce que c'était ce que tout le monde disait. Et même encore aujourd'hui, on sait pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, il s'avère que bah, les baleines font ça aussi. Voilà pourquoi je vous ai raconté toute cette histoire. Je vous parle d'un article que j'ai traduit par « Les carrefours migratoires favorisent la transmission culturelle des chants de baleines à bosse », qui est alors c'est sorti en fait il y a un peu plus de temps que ce que je pensais, en septembre 2019, mais j'étais déjà trop loin dans mon analyse pour changer. Et qui est en fait une collaboration entre des équipes donc australiennes, anglaises, néo-zélandaises, néo-calédonienne.
Oui, j'imagine.
Je tente un truc. De Polynésie française et de chercheurs aussi des îles de Cook, avec tout un tas de noms qui font très penser à la culture pop, puisque nous avons Claire Owen, Luc Rendel, Rochelle Constantine, Michael G. Noad, Michael Poole, Jenny Allen, Olive Andrews, Claire Garrig, David Connolly, Nan Hauser et Hélène C. Garland. Donc voilà pour les auteurs de cet article. Et donc dans cet article, ils s'intéressent aux baleines à bosse. Donc les baleines à bosse, c'est des baleines qui font entre 15 et 17 mètres. Donc c'est de la bonne baleine. Ça pèse environ 40 tonnes. Et on en retrouve dans tous les océans. Mais en revanche, il y a des populations différentes en fait. Et en fait, toutes les populations ne vont pas dans tous les océans. Donc qui occupent des régions différentes. En revanche, toutes les populations vont migrer autour de leur région d'origine pour trouver de la nourriture et se reproduire. Et en plus, on le sait, les mâles chantent. Alors les femelles chantent, mais c'est beaucoup plus court, beaucoup plus anecdotique. Les mâles, eux, chantent pour interagir avec les autres mâles et aussi avec les femelles. Et c'est des chants qui durent à peu près 15 minutes, mais qui peuvent être répétés pendant presque 24 heures.
Donc, ah ouais.
C'est
ah oui.
La bonne...
Cela dit, les oiseaux chantent aussi, et ils le font toute la journée.
C'est des champs, donc on le sait, je pense qu'on est beaucoup à avoir entendu un peu ça, à très basse fréquence, qui se propagent sur une dizaine de kilomètres sous l'eau. Donc voilà. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est des champs qui n'ont absolument rien d'aléatoire. Ils sont formés de phrases qui sont répétées avec de faibles variations. Et en fait, ces champs vont changer un peu au cours du temps. Et parfois, oui, on va même voir apparaître carrément de nouvelles chansons au sein d'une population. Dans l'article dont je vous parle, les chercheurs se sont intéressés aux baleines qui vivent dans le sud de l'océan Pacifique. Donc c'est une population qui est à peu près connue, où chaque baleine est à peu près peut-être identifiée par photo et génétique. Mmh. Et en fait, là, c'est sud du Pacifique et en fait à l'est de l'Australie. Donc prenez une carte, puisque là, on va parler d'une zone donc, qui va de l'est de l'Australie à la Polynésie française. Et donc, ils ont écouté le chant de différents groupes de baleines. Donc, au-delà du fait qu'il y ait des populations de baleines, parmi ces populations, il y a des groupes différents, qui sont des groupes plus ou moins familiaux, qui occupent des sites de villégiature, on va dire, qui sont différents.
C'est l'agglomération.
Voilà, c'est un peu ça. Qui sont différents en fonction de... Enfin, avant et après les migrations. Donc, ces sites de... villégiature, ils se sont intéressés à 1, 2, 3, 4, 5, 6 sites différents. Donc un site qui représente l'est, toute la côte est de l'Australie. Juste un peu plus à l'est, il y a la Nouvelle-Calédonie. Encore un peu plus à l'est, il y a Tonga. Encore un peu plus à l'est, Marion.
C'est dur,
mais surtout tu ne trouves pas tout de suite parce que c'est cette fameuse archipel dont on ne sait pas comment on prononce le nom.
Oh non.
C'est Niue.
Ah oui, Niue.
C'est Niue. Qui est donc une archipel. À l'est.
Un archipel.
Ah ouais, peut-être.
Là, il y a eu.
À l'est de Niue, il y a les îles Cook. Et à l'est des îles Cook, il y a la Polynésie française. Donc, ils ont écouté le chant des baleines à ces différentes localisations. Et pour faire simple, ils identifient 4 chants. Ce qui veut dire qu'il y a des champs qui sont retrouvés dans différents sites. Donc, qu'ils ont nommé 1A, 1B, 2 et 3. Et donc, en gros, dans l'Est australien, on entend le chant 3. En Nouvelle-Calédonie, c'est le chant 2 et 1B. À Tonga, c'est 2 et 1A. À Niue, c'est le chant 2. Dans les îles des Cook, c'est 2 et 1B. Et en Polynésie française, c'est 1A seulement. Donc ils retrouvent ces champs qui sont, donc, voilà, comme je l'ai dit, soit seuls, soit en combinaison entre eux sur ces différents sites. Et puis, en septembre et octobre 2015, ils sont allés faire des enregistrements à Kermadec, donc c'est une autre archipel.
Bon, ça c'est en Bretagne, je pense.
Oui, c'est... moi aussi au début je me disais, mais attends, ça n'a rien à voir.
Les baleines bretonnes.
Alors il paraît qu'il y a des baleines à la Bosse, il y en a dans le golfe de Gascogne. Oh. Mais là, Kermadec, en fait... C'est un archipel qui est au sud de Tonga. Et du coup, c'est en fait à peu près au milieu de toute cette zone dont je vous ai parlé, un peu plus en dessous de la ligne des différents sites. Et en fait, Kermadec, c'est vrai que ça fait vraiment... On a l'impression que c'est un Breton qui est allé et qui a planté son drapeau.
C'est peut-être ça, en fait.
C'est très
probable. Parce que c'est sûrement ça, en fait.
Sachant qu'il y a une île qui s'appelle l'île Raoul.
Ah.
Donc Raoul Kermadec.
On ne va pas rentrer peut-être dans le...
Franchement...
Ça passe. Je pense qu'il y a moyen.
Je pense qu'il y a moyen que ce soit breton. Donc Kermadec, c'est un carrefour migratoire, en fait. On sait qu'il y a pas mal de baleines qui passent par là. Et à Kermadec, j'ai envie de le répéter 1000 fois, ils vont enregistrer des chants de 52 individus. Et là-bas, ils retrouvent les chants 2 et 1B. Donc en comparant avec les chants qu'ils ont entendus dans les autres sites, ils arrivent à identifier à peu près l'origine des baleines qui passent par Kermadec. Et donc, vous avez probablement oublié ce que je vous ai dit comme chant en fonction des localisations.
Oui, tout à fait.
Mais moi aussi, mais j'ai des notes. En entendant le chant 2 et 1B, ils se disent ça veut dire que par là passent des baleines qui généralement se retrouvent en Nouvelle-Calédonie, à Tonga, à Niue et dans les îles Cook.
Mais pas en Polynésie française parce que c'était que le 1A.
Exactement, tu suis tellement bien. Donc c'est une des premières conclusions, c'est que ni les baleines de Polynésie française, ni les baleines de l'Est australien, qui eux étaient chantaient le type, le chant 3, j'allais dire qu'ils chantaient la Marseillaise, semblent passer par Kermadec. Et effectivement, comme en fait l'Est australien et la Polynésie française, c'est les deux points qui sont aux extrémités de tout ce ruban, peut-être qu'en fait pour eux, passer par le milieu, c'est plutôt problématique.
Est-ce que tu crois qu'ils ont rencontré Nemo et Dory et Marin?
C'est possible.
Parce que c'est le courant est australien.
Ouais. C'est très possible. C'est peut-être d'ailleurs une de ces baleines-là
qui les a...
Ouais.
Et qui les a mangées.
Je sais pas en quelle année c'était le monde de Nemo, mais bon là c'est 2015. Ouais, ouais. Non, c'est un peu mort. Mais du coup, donc, ils ont pu dire bah, telle baleine, elle vient de tel endroit, puisque au-delà d'identifier les champs, il y a des variations au sein des champs qui leur permettent d'être encore plus précis. Et effectivement, en fait, quand ils ont regardé, je vous ai dit que c'était des baleines qui étaient connues et qu'on pouvait identifier. Et bien, quand ils les ont identifiées, ça a confirmé la localisation qu'ils leur prédisaient.
Mais du coup, s'ils retournent voir ces baleines dans leur villégiature, comme tu disais, est-ce qu'on retrouve du coup des traces de ces nouveaux champs, entre guillemets, qu'ils ont peut-être échangés, ou est-ce qu'ils gardent quand même régionalement leurs champs à eux une fois qu'ils sont rentrés chez eux?
Alors, justement, ce qu'ils observent, c'est qu'au cours du... En fait, les baleines, quand elles passent par Kermadec, elles restent à peu près 4 jours et demi. Mm-hmm. Et en fait, ils observent qu'au cours du temps où elles restent là, alors ça, j'ai pas très bien compris si c'est au cours du temps ou si c'est quand elles remontent, il y a des variations dans les champs qui sont des variations qui montrent que deux groupes de baleines qui ne chantaient que le chant 2 ont quand même interagi, puisque leurs variations sont les mêmes. Et surtout, ils ont... alors, je crois que c'est un individu qui a carrément fait une chanson hybride entre le type 2 et le type 1B. Mmh. Ce qui est quand même assez fou. Mmh. Et qui montrerait en fait une transmission culturelle qui serait possible via ce carrefour migratoire, puisque, ben, comme je le disais, finalement, le chant de baleine, c'est très bien, mais en fait, on n'entend que sur 10 km. Mmh. Et du coup, quand ils sont chacun... Parce que la zone dont je vous parle s'étend sur 6000 km.
Oui.
Ah
oui.
Donc c'est sûr que le chant des baleines de Polynésie française, il peut difficilement être entendu par les baleines de l'Est australien.
Ouais, je pensais que ça allait beaucoup plus loin, moi, le chant des baleines.
Et ben moi aussi, mais en fait...
Donc on ne confond pas avec les éléphants ou un truc comme ça, je
crois. Le chant des éléphants, sous l'eau.
Non, pas sous l'eau.
mais donc voilà, et donc il y aurait une transmission. Et du coup, en fait, on peut non seulement dire telle baleine, elle chante telle chanson, donc elle vient de là... Et on pourrait presque dire telle baleine, elle a rencontré telle autre baleine de tel autre groupe. Quoi. Donc telle, par exemple, que si... imaginons qu'Antoine n'ait jamais rencontré, ne sache pas qui est Jessie, et qu'il la rencontre comme ça, par hasard, et qu'elle dit « Attends, je dois te laisser, je suis en retard à 1000 », ce qui serait très rare de la part de Jessie,
oui.
d'être en retard à 1000, et bien il se dirait « Oh, c'est fou !» Et en fait, ce qui se passerait, c'est qu'il y a un lien entre les différentes personnes.
Et est-ce que ces chants, ils pourraient se permettre de se reconnaître si elles se recroisent plus tard?
Alors ça, je ne sais pas. Stylé. Mais peut-être. Bah, en fait, justement, dans les perspectives, ils disent que c'est peut-être aussi un moyen, du coup, de dans la reproduction, justement, soit de séduire, soit...
De diversifier, non?
Voilà, soit de séduire, soit de diversifier. Mais il y a aussi une histoire de tel chant qui va prendre le pas un peu sur la zone. Et donc, par exemple, le fait que le chant 1B... on l'entend beaucoup moins que le chant 2, c'est peut-être que soit le chant 1B commence à arriver et du coup on l'entend très peu, soit le chant 1B est en train d'être oublié au profit du chant 2. Donc c'est assez fou de se dire déjà qu'il y a vraiment des chants spécifiques. C'est un peu le bœuf bourguignon des baleines. Et bien voilà pour ce sujet, et maintenant je me tourne vers toi, Marion.
Bonsoir.
Avec cette question, bonsoir, qui a peut-être peu de sens en ce moment en plein confinement.
Non, le confinement est fini.
Mais... Oui, mais oui. En pleine épidémie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on aime bien la science? Je vais essayer de ne pas dire sortir.
Alors, si on aime bien la science, mais qu'on ne peut pas sortir ou qu'on n'aime pas sortir, est-ce qu'on vous déconseille un petit peu en ce moment, vu la
conjoncture
actuelle?
Vu un truc qu'on ne prononcera pas, voilà. Les événements...
Eh bien, je vous propose 2-3 petits trucs qui se font en ligne et qui vous permettront de sortir sans sortir. Donc, la première chose, bon, c'est en anglais, mais c'est le AAS Worldwide Telescope, qui est un télescope en ligne.
Ah oui, je connais ça.
Voilà, et qui vous permet donc de voir des cartes du ciel en direct, d'essayer de voir ce qui se passe un peu chez vous et tout ça. Bon, tout le site est en anglais, mais c'est tout à fait bien.
Ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement, même si tu peux sortir, vu que c'est l'espace, ça change pas grand-chose.
En termes de sortie, je pense que tu vas pas croiser grand monde dans l'espace.
Ouais.
Sauf les deux.
Oui, sauf que cela dit, c'est
et le mec en Tesla, plus. Tu sais, qui est actuellement entre la Terre et Mars, je crois.
Ah ouais.
Ouais.
Quand même. Voilà, donc le deuxième, c'est l'exposition prototype du musée des arts et métiers, qui devrait ouvrir ses portes pendant le confinement, et qui du coup n'a pas pu. Et il propose du coup une partie de l'exposition en ligne, donc avec des capsules audio et vidéo, et donc c'est comme son nom l'indique, sur les prototypes, sur les qu'est-ce qu'un prototype, les quelques prototypes connus, et quelques trucs qui pourraient à l'avenir devenir des choses intéressantes.
Devenir plus que des prototypes.
Voilà. Ensuite, je vous propose également le musée virtuel de l'INSERM. Donc, il vous permet une immersion 3D sur plusieurs expos. Donc, par exemple, vous pouvez être dans un sous-marin pour l'expo Voyage au cœur du vivant. Ou dans un vaisseau spatial.
Attends, pour, dans un sous-marin pour l'expo Voyage au cœur du vivant.
Ouais, je pense que c'est un peu un truc à Il était une fois la vie où tu plonges dans des trucs vivants.
Ah oui, d'accord. Ok.
Voilà. Ouais, il y a plusieurs expos. Il y a aussi le labo des métiers. Donc, il y a plein de choses. Je vous mettrai le lien de ça. Ça a l'air assez intéressant. Et enfin, une dernière trouvaille que je trouve assez intéressante, qui est le Google Art et Culture XXL, et qui en fait est un projet de Google qui date de 2011 maintenant, et qui permet de visiter des musées en ligne, et un certain nombre de musées. Donc là, je vous donne l'exemple par exemple du Science Museum de Londres, où il y a 16 expos qui sont disponibles en visite virtuelle. Et en fait, vous avez plein de musées, que ce soit de sciences ou d'autres, qui sont disponibles sur le site Google Art et Culture, et que vous pouvez visiter en ligne.
C'est cool.
Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les autres podcasts, il y a toutes les conférences de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte qui sont disponibles en streaming. Toutes celles qui sont même passées avant, qui sont disponibles en streaming sur le site.
Ah, il y a des cours du Collège de France aussi. J'ai vu ça. Ouais. Regardez, c'est pas du tout mon rôle de dire ça, mais...
Non, mais c'est très intéressant.
Ok.
Donc voilà.
Eh ben, c'est cool. Comme ça, vous n'aurez même pas à sortir.
Pour sortir.
Pour sortir. c'est cool.
J'ai vu un truc sur Internet qui disait que, en fait, finalement, ce confinement, c'est un petit peu l'inverse de Pokémon Go. Oui. Vous permettez à des gens qui aiment pas sortir de sortir. Et là, en fait, on vous demande de ne pas sortir.
C'est vrai. C'était, pour notre plus grand bonheur, le 17e épisode d'Impact Factor 1000. On n'a pas fait plein de choses qu'on avait voulu faire en se disant on va se mettre sur YouTube pendant le confinement, on va faire ce genre de truc fou qu'on n'a pas du tout fait.
Est-ce que c'est pas un peu ce que tout le monde a fait pendant le confinement? Ouais. On s'est dit ouais, ça fait une période où on va faire plein de trucs. Et on n'a pas du tout fait plein de trucs.
Ah, nous on a fait du pain quand même, on a appris.
C'est vrai. Ouais.
Je crois que la foutue aujourd'hui.
c'est stylé.
Ouais.
Non, qu'est-ce que je voulais dire? Si, on a remarqué que sur Podcast Addict, il y avait, je crois, 43 personnes qui suivaient le podcast.
Oh,
c'est bon. Je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est cool. Il y a peut-être 40 bots, et nous trois, et voilà. Podcast Addict étant une très bonne application de podcast. Je crois qu'en plus, là, il y a Magellan, qui était apparemment la référence des applications de podcast, sur lesquelles, évidemment, nous n'étions pas, parce qu'on est toujours dans les bons plans.
Parce qu'on est un petit peu des hipsters du podcast.
Exactement.
C'était trop
amazing. On connaissait, bien sûr, voilà. Mais on n'était pas. Du coup, a fermé, son côté podcast. Donc, si vous ne savez pas comment faire pour avoir des podcasts sans pub, vous pouvez arrêter le truc, vous pouvez mettre une série de podcasts en favori, etc. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de... Alors, l'interface n'est pas hyper sexy, mais les possibilités sont cool. Eh bien, vous pouvez nous écouter sur Podcast Addict.
Et aussi sur le site, et aussi sur Spotify, et aussi sur iTunes.
Exactement.
Oui.
Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Mais à la prochaine. Voilà.
Oui.